Jusqu'ici, la France semblait éviter d'avoir à gérer la question du retour des djihadistes français ayant rejoint les rangs de l'État islamique. Mais depuis que Donald Trump a annoncé fin décembre le retrait des troupes américaines en Syrie, elle est contrainte de se saisir du sujet. Le ministère des Affaires étrangères vient officiellement d'évoquer le rapatriement possible de ces djihadistes. Pourquoi la France est-elle obligée de revoir sa stratégie? Bonjour Abdelhassim El-Dridifraoui, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Pourquoi ce revirement?
Est-ce que c'est réellement un revirement? C'est-à-dire là, il s'agit peut-être d'un retour massif, mais juste avant Noël, par exemple, il y avait un djihadiste qui était recherché depuis très longtemps, lié à la filière de la butte de Chaumont. Un jeune homme qui s'appelait Peter Sharif, qui était avec Al-Qaïda au Yémen, qui était condamné déjà en France, qui était escorté avec sa famille de Djibouti vers la France sur un avion de ligne. Donc il y avait toujours des djihadistes qui sont revenus. Là, il s'agit peut-être pour la première fois, mais c'est pas encore sûr, d'un retour massif. Et pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, le statu quo arrangeait tout le monde. Donc il y avait peut-être environ une centaine de djihadistes aux mains d'une milice kurde en Syrie.
Alors apparemment, les Kurdes...
Une milice alliée à l'Occident. Et cette milice alliée à l'Occident gardait ces djihadistes bien au chaud, au défaut des structures ou des capacités d'accueil, c'est peut-être le mauvais mot, en France. C'est-à-dire une centaine de djihadistes qui reviennent, qui doivent être traités par le système judiciaire français. Ça fait beaucoup. Donc la France était assez content que quelqu'un d'autre gardait les enfants du pays, les enfants égarés du pays ailleurs.
Mais le Figaro du jour nous dit que c'était pas forcément confortable pour les Kurdes, que ceux-ci trouvaient qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie pour garder. Alors vous dites sans, là apparemment, et il serait question de 90 combattants, mais enfin peu importe les chiffres précis. Mais en tout cas, les Kurdes apparemment veulent s'en débarrasser. Peut-être font-ils aussi un peu pression?
Oui, je pense qu'ils font un peu pression. Donc depuis l'annonce de Donald Trump de retirer les troupes américaines, les Kurdes de la Syrie, ces milices sont désemparées. Ils ont peur de se faire écraser par le régime d'Assad. Donc les djihadistes sont peut-être aussi un moyen de négociation, de dire à l'Occident, écoutez, si vous nous lâchez, on lâche des djihadistes dans la nature ou ça devient votre problème.
Oui,
parce qu'ils n'ont pas encore sorti de l'auberge, donc c'est 90 djihadistes, donc pas forcément de combattants, mais aussi de femmes et des enfants. Représente pas la totalité des djihadistes. Donc il y a d'autres djihadistes qui combattent français, européens, qui combattent encore dans le peu de poches tenues par Daesh, mais il y en a encore.
Abdelhassim El-Dridifraoui, aujourd'hui, c'est un jeu assez complexe. Le régime d'Assad, lui aussi, joue sa partition dans cette question des djihadistes français.
Oui, elle joue sa partition, donc ils ont probablement aussi arrêté quelques djihadistes français, mais c'est pas sûr. Mais le régime.
Alors, en tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Ils se disent ainsi que la France va être obligée de renouer avec le régime d'Assad si la France veut récupérer ces djihadistes ou avoir de leurs nouvelles.
Mais c'est très intéressant. Donc, par exemple, avant-hier, j'ai discuté avec un diplomate anglais, ex-diplomate anglais, qui disait le régime d'Assad, c'est quand même le meilleur garant contre le djihadisme, mais il faut jamais oublier que le régime a, au début de la révolte syrienne, lâché des centaines de djihadistes de ses propres prisons pour combattre des opposants syriens plutôt modérés, pour affaiblir cette opposition, par exemple de l'armée syrienne libre. Donc, à toute façon, encore une fois, la France elle avait une position qui disait il faut faire juger les djihadistes sur place. Mais ça marche uniquement si elle est un État sur place. Donc en Irak, par exemple, ça peut marcher. Mais on va mal aussi que, par exemple, la France va laisser juger des terroristes français par un régime qui lui-même est un régime terroriste.
Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives, Abdelhassim El-Dridifraoui? Est-ce qu'il était possible de faire autre chose? Un député français hier a dit qu'il était possible de faire des frappes ciblées, autrement dit d'assassiner ces djihadistes. Il y avait eu un aveu de François Hollande qui disait que ce qu'on appelle en anglais des targeted killings avait eu lieu, autrement dit des assassinats de djihadistes pour éviter justement que ceux-ci ne reviennent en France. Qu'en pensez-vous?
Donc la politique française était toujours très ambiguë. On se souvient, là, dans les années 2012-2013, au début de la révolte syrienne, il y a aussi des gens de services français qui disaient « On va laisser les djihadistes partir de la France, comme ça, ils ne sont plus là. Ils sont plus là, ils vont être tués sur place. Mais on oubliait que les djihadistes ont pu revenir sous nos radars pour commettre ces attaques atroces des années 2015-2016. Ensuite, il y avait clairement des assassinats ciblés contre certains djihadistes. Ensuite, il y a la France qui a déjà facilité le retour des djihadistes qui ont voulu revenir en France, qui n'avaient pas forcément de sang sur la main, à travers la Turquie. Donc, il y avait toujours au moins trois politiques parallèles. Assassinats ciblés, la tentative de les garder sur place, les faire juger sur place, notamment en Irak, et pour certains d'entre eux, notamment pour femmes et enfants, de les rapatrier en France. Mais tout le problème, c'était la situation actuelle était très commode pour la France, parce que déjà les tribunaux sont surchargés, on ne sait pas trop quoi faire dans les prisons. Il n'y a pas une vraie politique, par exemple, d'iradicalisation. Donc, jusqu'à maintenant, le statu quo a arrangé tout le monde. À revoir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait réellement avec ces gens qui vont revenir?
Dernière question, justement, Abdelhassem El Difraoui, à ce sujet. Est-il imaginable que parmi ces djihadistes, il y en ait qui décident d'abandonner le djihad, autrement dit, de changer d'avis, d'idéologie? Est-ce un revirement possible, envisagé et observé?
Parmi les djihadistes, il y en a de tout. Donc, des gens qui vont jamais renoncer à cette idéologie meurtrière terroriste. Après, il y a des gens qui vont peut-être renoncer uniquement à la violence. Et après, il y a des gens espérant qu'ils peuvent, même à long terme, être réintégrés dans la société française. Mais le problème, il est considérable. On peut pas faire de Guantanamo à la française. Donc, ces gens, la plupart des gens, vont un jour sortir de la prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait ensuite?
Abdelhassem El Difraoui, merci. Je renvoie à votre ouvrage « Le djihadisme » aux éditions des presses universitaires de France.